Merci d'être à l'écoute de RFI, les 17h à Paris, 15h en temps universel et à Nouakchott. Le journal vous est présenté par Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une de ce journal, les résultats du premier tour des élections législatives hier en France. L'extrême droite est arrivée en tête avec 33% des voix. L'alliance de gauche recueille 28%. Le camp présidentiel n'est que troisième avec 20%. Verdict bien différent chez les Français de l'étranger, comme nous allons le constater. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Razouani est réélu dès le premier tour avec 56% des suffrages. Les résultats provisoires officiels de la présidentielle sont tombés. Et puis le football, on est à moins d'une heure du coup d'envoi de France-Belgique, 8e de finale de l'Euro. On commence donc par revenir sur le premier tour des élections législatives en France et ses résultats historiques. Un véritable coup de force du Rassemblement National. Le RN et ses alliés ont recueilli 33% des suffrages devant l'alliance de gauche du NFP et ses 28%. À noter également une participation massive, 67%. Elle est aussi en hausse chez les Français de l'étranger. Mais pour ce qui est de leur choix dans l'isoloir, il ne ressemble pas du tout à celui du reste de la population.
Aucun candidat du Rassemblement National ne s'est qualifié dans aucune des 11 circonscriptions des Français de l'étranger, quand le RN fait un peu plus de 33% au niveau national. Tous les candidats sortants, en revanche, restent en lice pour le second tour. Dans 10 circonscriptions, il opposera un candidat de la majorité présidentielle au nouveau Front Populaire. Le NFP arrive en tête dans 5 d'entre elles, Amérique centrale et sud, les 2 circonscriptions africaines, la 3e en Europe du Nord et la 4e au Benelux. Renaissance Ensemble arrive en tête dans les 5 autres, péninsule ibérique, Suisse et Liechtenstein, Europe centrale et la 11e qui compte plusieurs pays de l'Est, l'Océanie et une majeure partie de l'Asie. Configuration différente pour la 8e circonscription qui compte plusieurs pays d'Europe du Sud, la Turquie et Israël. Aucun candidat RN ne s'était présenté face au républicain Meir Habib. Il affrontera la candidate de la majorité présidentielle Caroline Yadan. Pour ce second tour, les Français de l'étranger pourront voter en ligne dès mercredi midi et jusqu'à jeudi 18h. Dans les bureaux de vote, ce sera samedi pour le continent américain, dimanche pour le reste du monde.
Précision Marie-Cazadebé. La forte participation à ce premier tour a induit un nombre élevé de triangulaires potentiels, plus de 300. Ce chiffre va diminuer car les désistements se succèdent, déjà une centaine. La gauche a demandé à ses candidats arrivés troisième de se retirer pour faire barrage à l'extrême droite. La majorité sortante est quant à elle très divisée encore sur cette question. Les réactions sont nombreuses à l'étranger après ce coup de force de l'extrême droite en France. La diabolisation de l'extrême droite ne fonctionne plus, se réjouit Giorgia Meloni, la première ministre italienne. À l'inverse, son homologue polonais Donald Tusk évoque lui un grand danger pour la France et l'Europe. Préoccupation partagée par Berlin. La victoire du RN ne peut laisser personne indifférent. C'est ce que déclare la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. C'est une autre préoccupation pour une partie des Européens. La Hongrie prend ce lundi la présidence tournante du Conseil de l'Union. Parmi les sujets d'inquiétude, la question de l'Ukraine. Le président Viktor Orban a tenté de freiner le soutien à Kiev à plusieurs reprises. Katalin Cseh est membre de l'opposition hongroise, députée européenne au sein du groupe Renew. Elle fait aussi part de ses craintes.
Au cours des dernières semaines, durant la campagne électorale pour les européennes, Viktor Orban a présenté Ursula von der Leyen comme une ennemie de la Hongrie. Et il a accusé la bulle de Bruxelles, comme il dit, de choses absolument scandaleuses et qui sont des mensonges. Par exemple, de vouloir envoyer les jeunes hongrois faire la guerre. Après cela, on se demande s'il est capable de jouer honnêtement le rôle d'intermédiaire, d'autant que la Hongrie a été sanctionnée par l'UE pour avoir violé les règles de l'état de droit. Je m'inquiète également de savoir s'ils seront capables de mettre en œuvre des mesures très importantes, par exemple l'utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. J'espère que la présidence hongroise a pris conscience de l'importance de ce rôle et de l'énorme responsabilité qui lui incombe à cet égard. Et j'espère qu'elle ne se laissera pas dominer en cette période importante par son propre agenda politique national et par sa lutte incessante avec la bulle bruxelloise.
Des propos recueillis par Daniel Valo. En Ukraine, l'armée russe poursuit sa lente progression. Elle revendique aujourd'hui la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays. Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir procédé à des évacuations de civils. L'Ukraine, où 2 femmes âgées sont décédées dans un bombardement russe dans la région de Donetsk, annoncent les autorités.
RFI.
RFI, il est 15h05 à Nouakchott. Les résultats officiels provisoires de la présidentielle sont tombés en Mauritanie. Mohamed Ould Cheikh El Razouani est réélu dès le premier tour avec 56% des voix. Annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Aux États-Unis, Donald Trump salue une grande victoire pour la démocratie. La Cour suprême retarde son procès fédéral à Washington, qui pourrait donc se tenir après la présidentielle. L'instance lui reconnaît l'immunité pour ses actes en tant que président. Mais en revanche, selon elle, le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels. Pendant ce temps, un ancien conseiller de Donald Trump en prison, Steve Bannon, doit commencer à purger aujourd'hui une peine de 4 mois. Il a été reconnu coupable d'entrave à la justice dans l'enquête sur l'assaut du Capitole. Correspondance à New York, Lubna Anaki.
J'y vais sans regret, je suis un prisonnier politique. Ce sont les mots de Steve Bannon, appelé aujourd'hui à se constituer prisonnier dans un établissement pénitentiaire fédéral du Connecticut. L'ancienne éminence grise de Donald Trump a tout tenté et a épuisé presque tous les recours pour éviter ce passage par la case prison, 4 mois ferme, pour avoir refusé de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Malgré de multiples convocations, Steve Bannon avait refusé de comparaître devant la commission bipartisane et de communiquer les documents qui lui étaient réclamés, lui qui est considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque du 6 janvier 2021. Le stratège de la droite américaine estime que sa peine de prison ne fera que propulser sa popularité, son image de martyr. Il devrait sortir de prison à quelques jours seulement de la présidentielle et ne cache pas qu'il espère faire un retour à la Maison-Blanche en cas de victoire de Donald Trump. Mais Steve Bannon doit encore être jugé dans une autre affaire, de corruption cette fois, et ce sera à New York, dans le même tribunal où Donald Trump a été condamné fin mai. Lubna Anaki, New York, RFI.
On a appris ce lundi la mort d'une immense figure de la littérature européenne. L'écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana, en Albanie. Il était âgé de 88 ans. Olivier Roger.
J'essaye de faire une littérature normale dans un pays anormal, disait Ismail Kadare. Il était né dans l'Albanie communiste du dictateur Enver Hoxha et avouait avoir survécu grâce à la littérature qui lui donnait, disait-il, le courage de résister. Élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en octobre dernier par le président Macron, Ismail Kadare n'a pourtant jamais eu à attendre la gloire et les honneurs. Son premier roman, Le général de l'armée morte, publié en 63, lui a valu une reconnaissance internationale et une flopée de prix prestigieux. Si la littérature était pour lui une seconde patrie, c'est pourtant bel et bien sa première, l'Albanie, qui fut au centre de son œuvre. Sa vie épouse les soubresauts politiques d'une nation basculant dans l'obscurantisme. Plusieurs fois contraint à l'autocritique publique, Ismail Kadare aura longtemps joué au chat et à la souris avec le régime. Et aux donneurs de leçons qui lui reprochaient de ne pas avoir été suffisamment sincère avec les dictateurs, il leur envoyait cette question: faut-il être sincère avec les bandits ou les fauves? Exilé en France en 1990, il n'aura cessé de clamer son amour de la littérature, au panthéon de laquelle il rejoint désormais ses maîtres à penser, Goethe, Cervantes ou Shakespeare.
Olivier Roger. Enfin, c'est le choc des huitièmes de finale de l'Euro de football. France-Belgique, on est à moins d'une heure du coup d'envoi de cette revanche de la demi-finale du Mondial 2018. Deux équipes, la France et la Belgique, qui n'ont pas montré grand-chose au premier tour. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Victor, bonjour tout le monde.
Envoyé spécial d'RFI pour cet Euro. Antoine, l'équipe de France ne s'est pour l'heure pas montrée impériale jusqu'ici. Alors Didier Deschamps a décidé de tenter des choses avec un changement de système.
Quatrième match, quatrième 11 différents alignés au coup d'envoi. Cette fois, Deschamps coupe les ailes des Bleus au sens propre, hein, pour le figurer, on verra plus tard. Mais Bradley Barcola et Ousmane Dembélé alignés face à la Pologne disparaissent de l'équipe de départ. À la place, retour de Marcus Thuram en pointe de l'attaque tricolore et d'Antoine Griezmann remplaçant, un peu vexé face aux Polonais qui retrouvent le 11 de départ en milieu offensif côté droit. Un coup tactique de Deschamps, persuadé d'avoir trouvé sa formule au milieu de terrain avec Tchouaméni, Kanté et Rabiot. Changement tactique avant un huitième de finale, voilà qui rappelle des souvenirs pas forcément heureux, puisque c'est ce qu'avait tenté Didier Deschamps à Bucarest pour le huitième de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Les Bleus qui ce soir-là avaient inscrit 3 buts, un total qu'ils n'ont pas encore atteint dans cette édition, mais ils avaient surtout été éliminés au tir au but. Une déception qu'ils n'ont pas trop évoquée ces derniers jours, préférant se souvenir des deux derniers France-Belgique qui ont tourné à l'avantage des Bleus en 2021 en Ligue des Nations et surtout en 2018 à la Coupe du Monde. Avantage psychologique jamais totalement inutile, mais le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a rappelé hier que l'équipe de France ne commencerait pas le match à 1-0 en sa faveur, simplement parce qu'elle avait gagné les